Comment intéresser les élèves? Comment faire en sorte qu'ils ne soient pas passifs, qu'ils s'impliquent? D'ailleurs, comment sont-ils nos étudiants d'aujourd'hui et nos profs? Visiblement, le métier d'enseignant est plus compliqué, plus exigeant aujourd'hui. Son autorité est parfois remise en cause. Eh bien, on en parle ce matin avec un chercheur, Jean-Louis Berger, chercheur à l'Institut des hautes études en formation professionnelle. Il a mené un projet avec Kim Levan, notamment sur la motivation, un sujet d'étude qui a finalement été transformé en exposition itinérante qui vient de se terminer à Fribourg, mais qui sera bientôt de passage à Neuchâtel. Bonjour Jean-Louis Berger.
Bonjour.
Alors la toute première chose, c'est que vous-même, avant d'être chercheur, est-ce que vous avez été enseignant?
Oui, j'ai enseigné au gymnase, collège Genevois, et puis dans des classes, disons, spécialisées. Adolescents, jeunes adultes avec des difficultés sérieuses pour apprendre.
Mais vous en aviez marre du terrain? Pourquoi vous êtes vous tourné vers la recherche?
J'ai en effet enseigné quelques années, et puis c'est vrai que j'avais envie d'autres défis. J'avais envie de réfléchir sur le métier, sur l'apprentissage, plutôt que d'être impliqué au quotidien. Du coup, je suis parti sur la voie, disons, académique et recherche.
Et est-ce que c'est en étant enseignant que vous avez vu à quel point, justement, il était difficile de capter l'attention des élèves?
Oui, une expérience qui m'a marqué, c'est au gymnase. Donc j'enseignais des cours sur apprendre à apprendre, des méthodes, disons, d'apprentissage pour les élèves qui avaient un peu des difficultés. Donc c'est des bons élèves au gymnase, scolairement. Et puis, ce qui m'a marqué, c'est à quel point les élèves étaient peu actifs pendant le cours. Il fallait vraiment aller les chercher, les questionner directement, leur demander d'intervenir. Sinon, c'est vrai que c'était plus un cours magistral, disons, puis les élèves tranquillement écoutaient ou semblaient écouter sans vraiment être actif. Du coup, ça, c'est une expérience qui m'a marqué, puis qui fait que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que les élèves soient aussi passifs, disons?
Qu'est-ce que vous vouliez justement comprendre, apprendre en menant ce projet de recherche sur la motivation des élèves?
Le point principal qu'on voulait comprendre, c'était dans quelle mesure les enseignants peuvent avoir un impact, peuvent modifier ou augmenter l'engagement des élèves en classe. Est-ce que l'engagement des élèves, il est simplement dû à leur parcours scolaire, à leur genre peut-être, ou est-ce que l'enseignant a une place prépondérante dans cet engagement? Notre hypothèse, c'était que l'interaction avec l'enseignant, la façon dont l'enseignant se comporte, c'est ça qui va jouer un rôle majeur.
Alors, ce que j'allais vous dire, moi je suis pas chercheuse du tout, encore moins en hautes études professionnelles, mais de but en blanc comme ça, j'ai envie de vous dire, évidemment que l'enseignant a un immense rôle à jouer. On le savait pas déjà ça?
Si, on le sait déjà. Maintenant, il y a toute une partie de discours où on attribue finalement aux élèves le problème de motivation. On dit celles-ci, celui-là, ne sont pas motivés, c'est un peu leur personnalité. Ils sont comme ça, ça va être difficile. Et puis de toute façon, les années précédentes, mes collègues m'ont dit que c'était difficile de les motiver. Donc là, finalement, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'enseignant?
On se déresponsabilise un petit peu, c'est ça?
Ah oui, il y a des jeux de déresponsabilisation pour protéger en quelque sorte l'estime de soi en tant qu'enseignant.
Excusez-moi Jean-Louis Berger, vous avez procédé comment pour cette enquête?
Alors on a demandé aux élèves. Donc là, on était dans des classes d'école professionnelle. Donc, c'est les apprentis qui sont 1 à 2 jours par semaine à l'école, 3 à 4 jours dans une entreprise formatrice. Ils apprennent un métier. On leur a demandé, dans le cadre de l'école professionnelle, d'évaluer toute une série de comportements chez leurs enseignants. Donc, est-ce que les enseignants avaient tendance à se montrer autoritaires à certains moments? Est-ce que les enseignants considéraient les intérêts des élèves? Est-ce que les enseignants avaient tendance à donner des explications claires?
C'est difficile ça pour les enseignants. Est-ce qu'ils ont eu les résultats de ces enquêtes sur les élèves qui ont répondu à propos de leur façon d'enseigner?
Ils ont eu les résultats. On est retourné dans les écoles professionnelles et puis on a présenté ça, par exemple, aux journées de rentrée des écoles. Et puis comme ça, on a pu discuter avec les enseignants ce que pensaient les élèves. Puis on a pu mettre ça en contraste avec ce que les enseignants disaient.
Alors justement, qu'est-ce que vous avez appris en menant cette enquête, en allant interroger les élèves dans les écoles professionnelles, où c'est visiblement encore plus difficile, pas d'intéresser, mais d'engager en tout cas la motivation des élèves? Qu'est-ce que vous avez appris qu'on ne savait pas déjà?
On a appris qu'il y a différentes pratiques des enseignants qui ont vraiment un impact sur l'engagement des apprentis. Donc, il suffit pas de laisser des choix aux apprentis. Il suffit pas de considérer leurs intérêts. Il faut aussi, par exemple, leur donner un cadre. Les apprentis, comme les élèves à d'autres niveaux d'enseignement, ils attendent un cadre précis où ils savent ce qu'ils doivent faire et puis éventuellement comment ils doivent le faire. Donc, ça doit se combiner, cette structuration, comme on appelle, avec une certaine marge de liberté, marge de manœuvre plutôt, qui leur donne des choix. Donc, on a appris qu'il y avait différentes pratiques qui se combinaient pour mener les élèves à un meilleur engagement. On a aussi appris qu'il y a des pratiques qui étaient plutôt à éviter. Et puis,
comme quoi, par exemple ?
Ce que nous avons appelé le laisser-faire. C'est-à-dire que si les élèves perçoivent l'enseignant comme ne réagissant pas aux événements qui se passent en classe, laissant couler ou alors donnant des explications qui sont un peu aléatoires, alors là, c'est le pire pour les élèves. Finalement, il n'y a pas de règles et puis l'engagement n'est pas valorisé.
Jean-Louis Berger, vous êtes notre invité ce matin. On vous retrouve dans quelques instants.
C'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'arrives toute timide, perdu dans le décor, le cœur en l'air et les yeux qui dévorent toutes les saveurs de la ville qui t'appelaient entre ses lignes. Solide et sans pitié, les passants s'amassaient dans ses allées, s'élançant comme une rivière. Essaie de rejoindre son cœur. Tu te lances d'un bond, tu te fonds dans la foule. Tu te balades au hasard comme une plume en plein visage. Si loin que d'un coup tu t'affoles, tu sens tes pieds quitter le sol et ton esprit qui s'envole.
Seul au petit matin, comme un marin sur une plage, déposé là par une vague. On t'avait retrouvé, ton petit corps encore ankylosé, mais lavé de toute innocence, prêt à retourner dans la danse. Tu entends l'avalanche d'une âme et d'âme affairée qui s'élance, en faisant vibrer tout ton corps, pourvu que cette fois tu t'en sortes.
Bye.
Yel et voyou, les bruits de la ville sur la première. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Jean-Louis Berger, chercheur à l'Institut des hautes études en formation professionnelle. Jean-Louis Berger, vous avez mené un projet avec Kim Levan sur la motivation des élèves. Alors, dans la pédagogie aujourd'hui, les psychologues finalement ont apporté une dimension à cette pédagogie. Maintenant, on parle souvent de besoins psychologiques de l'élève. C'est quoi ces besoins psychologiques à l'élève ?
C'est la clé fondamentale pour comprendre pourquoi certaines pratiques des enseignants peuvent être motivantes ou démotivantes. Donc les besoins psychologiques, c'est quelque chose qui s'ajoute aux besoins de base au niveau physiologique. On connaît se nourrir, dormir. Mais maintenant, les êtres humains ont des besoins aussi au niveau psychologique. Donc il faut satisfaire notamment le besoin d'autonomie. Là, il s'agit du besoin qu'on a tous d'agir en cohérence avec nos valeurs, d'agir selon nos intérêts, d'avoir l'impression d'avoir une certaine marge pour mettre en acte nos valeurs. Et puis il y a d'autres besoins qui sont le besoin de compétences. Donc pour s'engager dans une activité, on a besoin d'avoir le sentiment d'avoir une maîtrise, d'être capable d'apprendre, de comprendre ce qu'on est en train à l'école, ce qu'on est en train d'apprendre. Et puis il y a aussi le besoin d'appartenance, qui est celui-là au niveau social. Donc on a besoin d'avoir des relations riches avec d'autres individus et puis de pouvoir faire confiance à d'autres personnes. Et ces trois besoins, ensemble, sont une clé de compréhension de la motivation des élèves en classe. Donc les enseignants ont certaines pratiques qui peuvent soit frustrer ces besoins, soit les satisfaire. Et puisqu'on comprend dans notre étude, ce qui a été montré dans d'autres études avec des élèves à d'autres niveaux d'enseignement, c'est que finalement, il y a des pratiques qui satisfont les besoins, qui mènent vraiment à un meilleur engagement chez les élèves, et même à ce que les élèves se sentent plus compétents. Et si je peux encore développer là-dessus,
allez-y.
Se sentir compétent dans un domaine, c'est aussi une porte d'entrée pour développer un intérêt pour le domaine. Si je ne m'intéresse pas à une matière, par exemple l'allemand, c'est aussi probablement parce que j'ai pas l'impression que je suis capable de l'apprendre, que j'ai des mauvaises notes, que j'y comprends rien.
Le professeur doit vraiment valoriser tout le temps, en fait, les élèves.
D'après nous, ça fait partie du rôle. Leur montrer qu'ils sont compétents, donc ça passe par des rétroactions, des notes qui sont commentées, leur montrer qu'ils ont une petite marge de liberté en classe, qu'ils peuvent faire certains choix, qu'ils sont pas toujours contrôlés par l'enseignant, et puis leur montrer que c'est des individus qui comptent. Donc avoir une relation de confiance enseignant-élève.
C'est marrant ce que vous dites, parce qu'il ne faut pas toujours être contrôlé. Mais d'un autre côté, vous nous disiez avant qu'il y avait absolument besoin d'un cadre pour les élèves. C'est une balance quand même qui est très difficile à trouver pour les enseignants.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait confondre le contrôle autoritaire avec ce qu'on appelle la structuration, donner le cadre. Alors dans l'une, en fait, on contraint les élèves à agir et à penser d'une certaine manière. On est autoritaire, donc on les fait taire, par exemple. On les oblige à se taire, ce qui ne veut pas dire qu'ils apprennent, mais au moins, ils sont silencieux. Et puis dans l'autre cas de figure, la structuration, là, on leur donne des lignes directrices. Donc on leur explique ce qu'ils doivent faire, pourquoi et comment. Et ça, c'est super important.
C'est une grosse différence.
Voilà.
Jean-Louis Berger, vous êtes notre invité ce matin. Vous avez fait des recherches sur la motivation et sur l'engagement des élèves. On continue à développer ce sujet passionnant avec vous après le journal.